Vous écoutez On lit pour vous.
Hiver difficile pour les personnes à mobilité réduite plaidant pour plus d'accessibilité. Un texte d'Antoine Peugeot-Charrault paru le 21 novembre 2024 dans RCI. À Saskatoon, comme ailleurs, chaque hiver représente un immense défi pour les personnes à mobilité réduite, en raison des conditions météorologiques difficiles combinées à des infrastructures inadaptées. Ces obstacles exposent ces personnes à des dangers accrus, les poussant à plaider pour une meilleure accessibilité en cette saison éprouvante. En effet, le lendemain de la première grande tempête de neige dans la province, le trajet pour se rendre au travail est devenu très difficile pour Deline Bortis, qui a les bras et les jambes paralysés en raison de sa tétraplégie. Elle doit se mouvoir en fauteuil roulant, une situation qui complique encore plus ses déplacements dans la neige. Ce jour-là, en tentant d'entrer dans son lieu de travail, la neige s'est accumulée sur les roues de son fauteuil roulant, les rendant extrêmement glissantes. J'essayais littéralement de passer les portes, mais j'étais coincé. Une chance qu'un collègue m'a vu et m'a aidé à entrer au bureau, dit Deline Bortis. Elle est directrice générale de Spinal Cord Injury Saskatchewan, un organisme qui soutient les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et d'autres handicaps physiques, et a pour objectif principal de les aider à gagner en indépendance et à participer pleinement à la vie communautaire. Quand sortir durant l'hiver devient dangereux. Atteinte d'ostéogenèse imparfaite, aussi appelée maladie des os de verre, Tasnim Jay-Z se déplace en fauteuil roulant. Mardi matin, en regardant par la fenêtre de chez elle, elle savait hors de tout doute qu'elle ne pourrait pas se rendre au travail. « Me déplacer avec la neige devient dangereux et une chute serait désastreuse. Ça me fait peur, » dit Tasnim Jay-Z. Avec la neige, je ne peux pas voir les fissures dans le trottoir ou même si une bordure de trottoir est correctement accessible, » précise-t-elle. En cas de chute, une personne atteinte de lésions de la moelle épinière, comme Deline Bortis, ou d'ostéogenèse imparfaite, comme Tasnim Jay-Z, est incapable de soutenir son propre poids pour se relever, rendant la perspective d'une chute particulièrement terrifiante. Selon Deline Bortis, de nombreuses communautés de la Saskatchewan doivent améliorer les services de déneigement, notamment pour les trottoirs, et mieux prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. J'ai même vu des stationnements où on entasse la neige sur les places réservées aux personnes handicapées, s'indigne la directrice générale de Spinal Cord Injury Saskatchewan. Des consultations essentielles. On a besoin d'entendre des personnes avec des handicaps physiques aux tables de décision afin de planifier comment s'adapter à ces changements météorologiques, pense Tasnim Jay-Z. Selon elle, il est crucial de rendre les espaces de discussion accessibles, car il lui est souvent difficile, voire impossible, de participer aux consultations publiques. Elle suggère que les élus se déplacent auprès des personnes en situation de handicap souhaitant prendre part aux échanges. La loi sur l'accessibilité de la Saskatchewan, entrée en vigueur le 3 décembre 2023, impose aux organismes du secteur public d'élaborer et de publier leur plan d'accessibilité. Le gouvernement provincial devait rendre son plan public dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 3 décembre 2024. Les autres organismes du secteur public disposent de 2 ans pour se conformer, ce qui fixe leur échéance au 3 décembre 2025. Quand l'entraide communautaire se met en branle. Dans plusieurs localités du nord de la province, la situation est encore plus préoccupante. Certaines routes ne sont même pas asphaltées, ce qui rend le déblayage de la neige encore plus rare. Selon Deline Bortis, certains membres de ces communautés restent cloîtrés chez eux de novembre à avril à cause de cette situation. C'est pourquoi Tasnim Jay-Z et elle insistent sur l'importance de l'entraide communautaire, devenue essentielle face à l'inaction des gouvernements. De nombreuses personnes se portent volontaires pour pelleter la neige ou faire les courses, contribuant ainsi à briser l'isolement des personnes à mobilité réduite au sein de leur communauté. Ces actes de gentillesse contribuent grandement à faire une différence dans la vie des personnes handicapées physiques, dit Tasnim Jaizi. C'était « Hiver difficile pour les personnes à mobilité réduite plaidant pour plus d'accessibilité », un texte d'Antoine Peugeot-Charrot paru le 21 novembre 2024 dans RCI.
Palmarès 2024, voici une école privée qui fait réussir ses élèves à besoins particuliers, le Collège Saint-Paul à Varennes. Un texte de Daphné Dion-Vien, paru le 17 novembre 2024 dans le Journal de Québec. Le Collège Saint-Paul à Varennes peut se vanter d'être l'école où les élèves réussissent le mieux parmi la vingtaine d'établissements privés qui accueillent une forte proportion de jeunes à besoins particuliers, selon l'édition 2024 du palmarès des écoles secondaires. Avec 40 % d'élèves ayant un plan d'intervention, cette proportion y est même plus grande que dans le réseau public en moyenne. Les élèves à besoins particuliers sont au collège pour y rester. Ils nous apportent beaucoup, affirme son directeur général, Jaziel Pétrone. Ce virage a été pris il y a une dizaine d'années, notamment avec la création d'un programme de soutien pédagogique destiné aux élèves plus faibles ayant réussi de justesse leur primaire. Ces jeunes sont regroupés dans de petits groupes, comprenant 23 élèves plutôt que 36, où davantage de périodes sont consacrées aux matières de base. Ils sont accompagnés par une enseignante ressource et une orthopédagogue qui assure un suivi serré afin qu'ils puissent intégrer le programme régulier à partir de la quatrième secondaire. Les élèves ont confiance en nous et ils savent qu'on ne les laissera pas tomber. C'est vraiment notre grande force, affirme Karine Gibault, qui enseigne dans ce programme. Viviane Charland, une élève de cinquième secondaire, peut en témoigner. Quand je suis arrivée au collège, les maths, c'était vraiment difficile. Mais ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup d'aide et le fait d'avoir des petits groupes, ça m'a permis de poser plus de questions et de mieux comprendre, raconte-t-elle. L'engouement pour ce programme est d'ailleurs devenu si grand au fil des ans qu'il y a maintenant 4 fois plus de demandes que de places disponibles, qui sont en majorité comblées par la fratrie. De bons élèves qui ont des besoins particuliers. Les élèves à besoins particuliers sont aussi nombreux dans les autres programmes davantage centrés sur les intérêts des élèves, comme les sports, les arts et les sciences. Il s'agit toutefois d'élèves qui réussissent assez bien, mais qui ont besoin de mesures d'adaptation pour y arriver en raison de troubles d'apprentissage. Le collège sélectionne ses élèves admis en première secondaire selon leurs résultats scolaires. Ceux qui ont un plan d'intervention peuvent bénéficier de services d'accompagnement pour mettre en place ces différentes mesures, moyennant des frais supplémentaires. Les plus courantes sont des logiciels d'aide à l'apprentissage ou du temps supplémentaire pour faire un examen. Il y a aussi des élèves qui ont des élastiques installés sous leur bureau et d'autres qui travaillent assis sur un ballon ou debout à une table en classe, ce qui les aide à se concentrer. On est super ouvert et on est très créatif sur les moyens à mettre en place pour qu'ils réussissent. À partir du moment où ils sont avec nous, on les diplôme, affirme la directrice des services pédagogiques, Sophie Laflamme. La rétention est d'ailleurs une priorité dans cet établissement, ajoute Jaziel Pétrone. Même les élèves ayant des troubles de comportement sont encadrés plutôt qu'expulsés, assure-t-il. Ce collège, qui accueille environ 1 000 élèves, compte d'ailleurs 6 éducatrices spécialisées à temps plein, soit un nombre beaucoup plus élevé que dans plusieurs autres écoles privées de taille similaire. On a misé sur plus de gens sur le plancher que plus de gens en contrôle, explique le directeur général. On est très accompagnant, on va tout faire pour les aider. Notre philosophie, c'est de les amener au bout. C'était Palmarès 2024, voici une école privée qui fait réussir ses élèves à besoins particuliers, le Collège Saint-Paul à Varennes, un texte de Daphné Dion-Vien, paru le 17 novembre 2024 dans le Journal de Québec.
La vie n'avertit pas. Un texte de Fanny Arcan paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. Avec sa chemise repassée, assis dans sa chambre bien rangée, Jacques Roy ne laisse pas deviner qu'il vivait dans sa voiture il y a 2 ans. Et il serait peut-être encore à la rue si une place ne s'était pas libérée dans la seule résidence pour aînés en situation d'itinérance de la province. Je n'aurais jamais prévu ça, mais la vie n'avertit pas. Laisse tomber Jacques Roy, les mains jointes, posées sur ses cuisses. Il y a 5 ans, l'homme de 72 ans gagnait sa vie en faisant le ménage de maisons privées à la Chine, où il louait un appartement avec sa conjointe Diane. Mais une suite de drames a frappé l'aîné. D'abord, la mort de sa conjointe. Ensuite, la pandémie de COVID-19 qui l'a empêché de pratiquer son métier. Jacques Roy a perdu ses revenus et éventuellement son appartement. Il s'est retrouvé à dormir dans sa voiture, qu'il s'est ensuite fait voler. « J'étais complètement désorienté, sans Diane à côté de moi », se souvient-il, en tendant le bras vers une photo de sa défunte conjointe. Mais ce chapitre de la vie de Jacques Roy est derrière lui. Aujourd'hui, l'aîné a sa propre chambre dans la résidence J.A. de Sèvres de la Maison du Père, une résidence pour aînés, RPA, qui accueille exclusivement des hommes en situation d'itinérance depuis 1988. Le luxe qu'on a dans notre ressource, c'est qu'on a du temps, souligne Samuel Drolet-Bégin, intervenant psychosocial. Les nouveaux résidents, dont certains ont passé des décennies en itinérance, arrivent souvent avec de sérieux problèmes de santé mentale et physique, ainsi qu'une faible estime d'eux-mêmes. Près de la moitié des résidents ont des enjeux de consommation, selon l'intervenant. Notre travail, c'est d'accompagner les gars à travers ces problématiques-là pour qu'ils puissent finir leur jour dans la dignité, dit Samuel Drolet-Bégin. Un modèle unique. La résidence J.A. de Sèvres accueille les hommes âgés de 55 ans et plus, qui sont considérés comme aînés en raison du vieillissement précoce que provoque la précarité. La malnutrition, la consommation de drogue, l'exposition au froid et le stress sont autant de facteurs qui fragilisent la santé des personnes en situation d'itinérance, précise Samuel Drolet-Bégin. Mais les résidents de la RPA n'ont pas tous connu la rue. On a beaucoup de gens qui ont eu des vies accomplies, mais qu'une rupture amoureuse ou la mort d'un proche a mené à perdre leur logement, souligne l'intervenant. Selon le dénombrement effectué par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2022, pas moins de 44% de la population itinérante de Montréal est âgée de 50 ans et plus, une proportion qui a augmenté de 33% en 4 ans. Or, la résidence J.A. de Sèvres est la seule RPA de la province qui accueille exclusivement la population itinérante, un fait aberrant aux yeux de Julie Denis, directrice du continuum de services cliniques à la Maison du Père. Avec ses 87 chambres, la résidence ne parvient pas à répondre à la demande. On a toujours une liste d'attente. Avec les loyers qui montent et la population qui vieillit, « ça n'arrêtera pas non plus », dit Julie Denis. Julie Denis aimerait notamment voir ouvrir une RPA qui accueillerait les femmes itinérantes. « Mais comme toujours, c'est une question de financement », souligne-t-elle. Échapper à la misère. Les rideaux sont fermés dans la chambre de Luca di Dodo quand Julie Denis cogne à sa porte. L'ancien camionneur a vécu toute sa vie avec un toit au-dessus de la tête, mais sa dépendance au jeu l'a mené à la rue. À 70 ans, il s'est retrouvé à dormir dans les dortoirs du service d'urgence de la maison du père pendant un an, avant d'être admis à la résidence J.A. de Sèvres. Tous les jours, tu vis dans le stress, à te demander où tu vas aller. C'est une vie misérable, dit Luca di Dodo. Arrivé il y a 7 mois, Luca di Dodo est soulagé d'avoir une chambre à lui, mais il peine encore à s'intégrer au sein de la résidence. « J'ai de la misère à accepter que je suis rendu là », affirme-t-il, assis dans son fauteuil berçant. « Ça va venir. Vous allez vous adapter », lui répond Julie Denis. « Essayez de venir aux activités plus souvent. » Barbecue, jeu de cartes, jardinage, bingo. Les récréologues de la Maison du Père planifient chaque mois un calendrier d'activités pour briser l'isolement des résidents. Gagner la confiance des nouveaux venus ne se fait pas du jour au lendemain, concède Julie Denis en marchant dans un couloir. Mais voir les résidents évoluer, c'est ça notre paye, ajoute-t-elle. C'était « La vie n'avertit pas », un texte de Fanny Arcan paru le 17 novembre 2024 dans La Presse.
Des enfants moins déprimés grâce à la nature, un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 novembre 2024 dans La Presse. Les enfants sont moins déprimés quand ils sortent dans des espaces verts chaque semaine avec leurs profs, montre une nouvelle étude montréalaise. 5 leçons à tirer de ces recherches. 1. La nature fait du bien aux enfants. Se promener dans la nature diminue les sentiments négatifs. Marie-Claude Geoffroy est arrivée à cette conclusion avec plusieurs études cliniques qu'elle a menées à l'Université McGill. Mais elle l'a aussi observée personnellement. Quand la pandémie est arrivée, nous étions confinés avec les enfants à la maison, dit la psychologue. Avec les enfants et mon mari, on sortait beaucoup dans la nature. On observait que ça nous faisait vraiment du bien. Madame Geoffroy a publié vendredi dans la revue JAMA Network Open une étude montrant que les écoliers qui vont chaque semaine dans un parc avec leurs profs sont plus calmes, détendus et attentifs. Ceux qui ont des petits symptômes psychologiques négatifs en ont moins. Au-delà des écoles, tous les parents gagneraient à aller dans la nature avec leur enfant, selon la chercheuse de McGill. Pourquoi? Notamment parce que la nature a un effet de restauration de l'attention et de réduction du stress et mène à une réduction de la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Puis, parce qu'en nature, on bouge plus et on fait plus d'activités favorisant la cohésion entre personnes. Il y a moins de pollution atmosphérique, d'îlots de chaleur et de pollution sonore. Et il pourrait y avoir un effet bénéfique sur le microbiote gastro-intestinal, les bactéries du système digestif, qui semblent avoir des interactions par le système nerveux avec des régions du cerveau. 2. 2 heures par semaine suffisent pour faire une différence. Pour les parents qui ont un horaire de ministre entre le travail, le transport et s'occuper des enfants, Madame Geoffroy a une bonne nouvelle. Il suffit de 2 heures par semaine pour observer un effet bénéfique sur les enfants. On ne parle pas d'aller passer une journée à jouer dehors. Ça montre l'ampleur de l'effet de la nature. L'étude publiée dans le JAMA a été menée auprès de 1000 enfants de 10 à 12 ans de 33 écoles montréalaises pendant 3 mois. La moitié, le groupe d'intervention, recevait la prescription de 2 heures en nature sur le temps de classe. L'autre, le groupe contrôle, non. 3. Pas besoin d'aller à la campagne. Un parc en pleine ville peut facilement faire l'affaire. Pas besoin d'aller à la campagne, selon Madame Geoffroy. C'est surprenant le nombre d'espaces verts à Montréal. On a fait une liste de 250 écoles qui avaient un parc à moins d'un kilomètre. Et pourquoi une promenade dans une rue ou dans une ruelle ne fait-elle pas l'affaire? En milieu urbain, il y a plus de bruit à cause des voitures et la tension est stimulée par les voitures, explique-t-elle. 4. Quelques symptômes à surveiller. L'étude de Mme Geoffroy a montré que passer 2 heures par semaine dans la nature bénéficiait particulièrement aux enfants anxieux qui démontrent des symptômes dépressifs, de l'agressivité, de l'impulsivité ou des problèmes d'interaction sociale. Beaucoup d'enfants ont ces symptômes, dit Mme Geoffroy. Est-ce que les parents dont un enfant a ce type de symptômes peuvent essayer de les amener dans la nature? Ça ne peut pas nuire, répond Mme Geoffroy. Mais la nature ne remplace pas une consultation professionnelle, prévient-elle. Les effets bénéfiques de la nature étaient mesurables dans ce groupe, mais pas chez les enfants qui allaient bien au départ. 5. L'école peut jouer un rôle. Marie-Ève Proux et Vanessa O'Neill sont professeurs de maternelle de l'école des Coquelicots à Verdun. Depuis 4 ans, elles font la classe 5 à 8 heures par semaine dans un parc sur le bord du fleuve. Les enfants ont besoin de bouger, d'espace, explique-t-elle. Après une sortie, les élèves sont plus engagés dans leurs apprentissages. Il y a moins de conflits en classe. Mesdames Proux et O'Neill appliquent, dehors, le programme éducatif, par exemple, en ramassant et en découpant des feuilles mortes pour exercer la motricité fine des petits. L'étude de Mme Geoffroy a fourni une 30aine d'activités aux profs du groupe d'intervention. Il y avait des enfants de 6e année qu'il fallait préparer aux examens du ministère. Certains des exercices était plus philosophique, comme parler des cycles de vie ou de la beauté. D'autres, plus mathématiques, comme estimer la hauteur d'un arbre ou le nombre de brins d'herbe. Les activités sont accessibles en ligne pour les parents qui voudraient enrichir leur sortie en nature. C'était « Des enfants moins déprimés grâce à la nature », un texte de Mathieu Perrault, paru le 16 novembre 2024 dans la presse.
Le parcours de la combattante, un texte de la rédaction paru le 19 novembre 2024 dans Journal Accès. Il y a des combats admirables, invisibles, des combats loin des projecteurs, loin des moments tape à l'œil comme Logan et Tyson. Ces combats-là ne font pas la une, mais ils changent des vies. Louise Bertrand mène un de ces combats. Mère de Charles, autiste devenue adulte, elle s'est battue pour lui offrir plus qu'un toit, une vie autonome. Avec patience et constance, elle a cultivé chez lui le désir de se dépasser. Mais dans les Laurentides, une cruelle réalité demeure. Il n'existe presque aucun lieu adapté pour des jeunes adultes comme Charles. Un cercle vicieux. Selon un reportage de Radio-Canada, 62% des jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle légère ou un handicap léger vivent encore chez leurs parents. Pourquoi? Parce que les ressources manquent. Ces jeunes, souvent pleins de potentiel, se retrouvent enfermés dans une dépendance involontaire. Pour les rares qui accèdent à un logement, l'isolement guette. Charles, par exemple, habite un appartement entouré de logements Airbnb. Peu de contacts sociaux, peu d'activités, pas de réseau immédiat. Heureusement, un projet brise ce cercle vicieux. Vive en logis. Un rêve qui devient réalité. Vive en logis verra le jour à Sainte-Adèle. Ce projet de logements sociaux accueillera 20 jeunes adultes autonomes ayant des besoins particuliers. Grâce à des unités modernes, sécuritaires et abordables, ses locataires pourront s'épanouir dans un véritable milieu de vie. À quelques pas des services et activités sociales, Vivre en logis offrira bien plus qu'un toit. Des activités communautaires, une salle polyvalente et un intervenant sur place pour assurer un filet de sécurité. Un modèle innovant. Les locataires paieront 25 % de leurs revenus grâce au programme de supplément au loyer, PSL. Un modèle simple, mais efficace, soutenu également par le programme Accès Logis, malheureusement aujourd'hui aboli. Cette initiative, rare dans les Laurentides, représente un espoir pour d'autres familles. Mais ce n'est pas qu'un projet immobilier. C'est une promesse d'inclusion sociale, portée par des parents, des bénévoles et des citoyens engagés. Une course contre la montre. Le temps presse. Pour bénéficier d'Accès Logis avant sa disparition, les travaux doivent débuter d'ici la fin 2024. La construction s'étendra sur 18 mois, avec une ouverture prévue à l'automne 2026. Le budget total s'élève à 10 millions de dollars. Grâce à la mobilisation, 9,5 millions ont déjà été réunis. Il manque encore 500 000 dollars. Cette somme permettra d'aménager les espaces communs, une salle communautaire, un jardin collectif, des infrastructures adaptées. Une communauté mobilisée. Si vous voulez comprendre pourquoi ce projet est essentiel, prenez quelques minutes pour visionner la vidéo sur leur site. Elle met des visages et des histoires sur ces chiffres. Vivre en logis ne répond pas seulement aux besoins des jeunes adultes. Il libérera des logements dans la région et allégera la pression sur le marché locatif. Des initiatives similaires ailleurs au Québec montrent que l'impact dépasse les bénéficiaires directs. Toute la communauté y gagne. Un combat collectif. Le parcours de Louise Bertrand et des autres parents n'a rien eu de facile. Ils ont affronté des embûches. Pandémie, flambée des coûts, règles complexes et abolition des programmes essentiels. Pourtant, ils ont persévéré. Vivre en logis, c'est le fruit de leur combat. Mais c'est aussi le nôtre, parce qu'au-delà des budgets et des échéanciers, il s'agit de bâtir une communauté où chacun trouve sa place. Parce qu'offrir un toit, c'est aussi offrir une chance de vivre pleinement avec dignité. C'était « Le parcours de la combattante », un texte de la rédaction paru le 19 novembre 2024 dans Journal Accès.